C'est un mouvement que l'on peut qualifier de terroriste parce qu'il pratique des actions d'intimidation et de violence physique envers leurs adversaires, essentiellement les minorités religieuses musulmanes, comme par exemple la Ahmadiyya, auxquelles ils se sont attaqués à plusieurs reprises, et également les églises chrétiennes, catholiques, protestantes. Leur but étant la restauration d'un islam pur. Néanmoins, pour vous donner un exemple, quand ils s'attaquent à Jakarta régulièrement, à des discothèques, à des bars, sous couvert donc de lutter contre le vice et la propagation de mauvaises pratiques, eh bien, il apparaît que leurs motifs sont moins purs que cela, puisqu'en fait, ils rançonneraient des lieux de divertissement, et quand ces lieux ne paient pas de taxes ou d'impôts ou de contributions, si vous voulez, en fait, eh bien, ils attaquent ces bars.
Alors, vous l'avez dit, les motivations des membres du Front des défenseurs de l'islam sont religieuses, même si elles semblent parfois camoufler une certaine volonté de profit. Mais quelle relation entretient le FPI avec la sphère politique ?
Alors, ce n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement islamique qui mélange politique et religion, mais je veux dire, ils ne participent pas aux élections. Mais en tout cas, ceux qui sont à la tête de ce mouvement sont en relation de manière évidente avec un certain nombre de personnes de l'establishment, qu'ils soient par exemple de la police nationale et qu'ils soient même de partis politiques, parce que par le passé, un certain nombre de partis politiques les ont utilisés en sous-main pour éliminer leurs adversaires.
Les autorités indonésiennes font-elles tout ce qui est en leur pouvoir pour contrer le FPI et qu'est-ce qui est fait concrètement ?
Jusqu'à présent, les autorités publiques n'ont pas agi contre eux. Alors certes, l'année dernière, le chef de ce mouvement, qui est Mohamed Habib Rizik, a été mis en prison. Seul lui avait été inquiété, son mouvement n'a pas été interdit. Ils jouissent de cette impunité et ils ont une certaine notoriété de par le fait que les médias parlent beaucoup de leurs actions et ils attirent en cela un certain nombre de personnes qui viennent là trouver une légitimité à leurs actions violentes.
On commence à observer dans les communautés chrétiennes comme musulmanes des protestations ouvertes contre l'impunité dont jouit le groupe terroriste.
C'est assez récent. On a commencé à voir un certain nombre de voix s'élever contre cette impunité et un certain nombre de mouvements, d'associations, de groupements de défense des droits de l'homme, par exemple. Vous avez une commission en faveur des personnes disparues et des victimes de violences. Vous avez des instituts d'assistance juridique ou de défense juridique. La communauté des églises d'Indonésie également ont commencé à se réunir et à faire valoir leur point de vue auprès de l'exécutif. Et récemment, c'est plutôt cela qui a un petit peu changé la donne, parce que le chef de la police a commencé à parler un peu plus ouvertement de certaines exactions qu'il ne tolérerait plus. Mais il semble avoir en fait reçu des ordres directement de la présidence de la République d'Indonésie, puisque donc le mois dernier, un des trois gros partis politiques indonésiens était attaqué par le FPI, sous prétexte que c'était une réunion crypto-communiste. C'est la raison pour laquelle non seulement le président en a parlé publiquement, mais c'est la raison pour laquelle également il a convoqué le directeur de la police, qui est un général, pour mettre fin à ce que fait le FPI dans le pays.